Bonjour, je suis le docteur Dustin Costescu. Je suis professeur agréé d'obstétrique et de gynécologie à l'Université McMaster à Hamilton, où je travaille en tant que spécialiste de la planification familiale et de la santé sexuelle. Je fais partie d'un groupe qui a assisté à la conférence virtuelle de la Société européenne de gynécologie qui s'est tenue à Venise en novembre dernier. Nous voulions vous présenter un aperçu de certaines des séances auxquelles nous avons assisté et qui nous ont semblé les plus pertinentes pour des cliniciens occupés. J'ai le plaisir de vous présenter Renée Hall, qui va nous parler un peu d'elle et nous entretenir sur l'une des séances auxquelles elle a participé. Dr. Hall, je vous cède la parole.
Merci beaucoup, Dr. Cotescu. Je m'appelle Renée Hall. Je travaille à Vancouver dans le domaine de la planification familiale depuis environ 20 ans. Je suis directrice médicale de la Women's Services Clinic à Kelowna et je travaille sur le programme de soins du BC Women's Hospital. Je pratique des avortements au premier et au deuxième trimestre et j'offre des soins liés à la contraception. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler d'une présentation à laquelle j'ai assisté. Il s'agit d'une présentation faite par le médecin suédois, la docteure Christina Gemzell Danielsen, qui portait sur le counseling axé sur la méthode de contraception réversible à action prolongée, MCRAP, et ses répercussions sur les grossesses non désirées. Elle a commencé par dresser un bilan des grossesses non désirées et discuter de la répercussion sur l'individu et la société, ainsi qu'à l'échelle mondiale. Elle a ensuite parlé brièvement des naissances non désirées et inopportunes, de même que des effets sur l'enfant. Elle a ensuite abordé un peu l'impact mondial sur la croissance démographique et l'environnement, ce que j'ai aussi trouvé intéressant. Elle a ensuite examiné les données existantes concernant le counseling en matière de contraception ou le counseling structuré en matière de contraception, ainsi que son incidence sur l'instauration d'une méthode de contraception réversible à action prolongée, MCRAP, et les grossesses non désirées dans le monde entier. US Choice, une étude à laquelle on se réfère assez souvent, en particulier ici, en Amérique du Nord, n'a pas nécessairement établi de différence entre les taux d'instauration dans les centres où un protocole très structuré était en place, par rapport à ceux utilisant un counseling standard. En Finlande, on a mené une étude semblable qui a permis de montrer une augmentation du taux d'instauration des méthodes de contraception réversible à action prolongée, MCRAP, et une baisse du taux d'avortement lorsque le counseling en matière de MCRAP était suivi de. Les MCRAP étaient offertes gratuitement et certains fournisseurs obtenaient un remboursement. En Australie, on a constaté que l'accélération de la prescription d'une MCRAP après une séance de counseling avait effectivement pour conséquence d'en augmenter le taux d'adoption. Aux États-Unis, une étude contrôlée menée à répartition aléatoire par GRAP, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'étude de la docteure Gemzell Danielsen, a montré qu'il y a effectivement eu une hausse de la sélection d'une MCRAP dans le groupe d'intervention et une diminution du taux de grossesse non désirée dans le groupe de femmes subissant un avortement. Elle a aussi fait référence à une autre étude écossaise qui a vérifié si le counseling en matière de contraception par un spécialiste du domaine était bénéfique par rapport à un counseling standard en matière de contraception. Et effectivement, on a trouvé que les bienfaits étaient comparables dans les deux groupes. Aucune différence significative n'a été observée. Il était donc rassurant de constater que le counseling en matière de contraception offert au premier point de service s'était révélé aussi efficace que la consultation d'un spécialiste. Dans l'étude qu'elle a menée, Christina voulait évaluer l'effet d'une séance de counseling structuré en matière de contraception à la fois sur l'adaptation des MCRAP en situation clinique réelle et sur les taux de grossesse. Par conséquent, elle a mené une étude à répartition aléatoire par GRAP de septembre 2017 à mai 2019 dans un certain nombre de cliniques à Stockholm. De plus, les femmes incluses qui demandaient à subir un avortement ou à obtenir une séance de counseling en matière de contraception étaient âgées de plus de 18 ans, puis ont fait l'objet d'un suivi à l'aide des questionnaires remplis après 1, 3, 6 et 12 mois. Le groupe témoin s'est vu offrir la séance de counseling habituellement dispensée par ses cliniques. Le groupe d'intervention s'est vu offrir une séance de counseling structurée en matière de contraception qui comprenait 4 éléments, dont une vidéo. Le deuxième élément était un tableau comparatif portant sur l'efficacité de chaque méthode. Le troisième élément était une boîte de démonstration et le quatrième, une séance de counseling individuelle comprenant des questions précises axées sur les besoins de la patiente. Le principal critère d'évaluation du choix du MCRAP lors de leur première visite montre certainement une différence dans le groupe d'intervention de toutes les cliniques, c'est-à-dire les cliniques d'avortement, les cliniques pour jeunes et les cliniques de santé maternelle. Aux cliniques d'avortement, on a aussi observé une diminution du critère d'évaluation secondaire, soit les grossesses après 12 mois. Le taux de grossesse non désirée était donc nettement plus faible dans ce groupe d'intervention. Ainsi, la docteure Gamzer Danielson estime qu'une trousse d'intervention comprenant une séance de counseling structurée axée sur l'efficacité des méthodes de contraception a permis d'augmenter l'adoption des MCRAP et de réduire le nombre de grossesses enregistrées dans les cliniques d'avortement après un suivi de 12 mois par rapport à une séance de counseling habituelle. Elle a aussi brièvement discuté de la manière dont la COVID-19 a considérablement influé sur l'adoption des MCRAP en Suède, observation qui s'applique certainement aussi au Canada. Dans l'ensemble, cette présentation a bien réussi à décrire et à nous rappeler à l'esprit la grossesse non désirée en tant que problème mondial, ainsi que son impact sur les individus et la société, de même que les enjeux environnementaux et mondiaux plus vastes. Je pense aussi, et elle a brièvement mentionné la différence relative au coût et au counseling en matière de contraception, mais ceux-ci ne font pas souvent l'objet d'une distinction dans le cadre des études. Je pense aussi que cela est important et que cela peut avoir différentes conséquences sur les résultats. La gratuité des méthodes de contraception est rentable pour le système de santé. Les données canadiennes soutiennent cette affirmation et même certains de nos partis politiques en tiennent compte. Le gouvernement de Colombie-Britannique a promis d'offrir à sa population sans frais des méthodes de contraception, mais cette initiative ne s'est pas encore concrétisée. Certaines organisations exercent la pression dans le cadre de la campagne Access BC. Ça bouge aussi en Ontario sur ce plan. Il pourrait aussi y avoir de l'action en ce sens dans d'autres provinces. Ainsi, dans l'ensemble, l'étude LOW menée par Christina s'est penchée sur une approche multidimensionnelle du counseling en matière de contraception. Ce que j'ai trouvé intéressant, et il s'agit là de quelque chose que nous pourrions intégrer à nos propres pratiques, c'est l'ajout de cette vidéo. Nous avons fait des démonstrations, nous avons examiné les modèles d'efficacité, nous offrons des séances de counseling individuelles, mais la vidéo pourrait aussi comporter certains avantages. Cela s'inscrit donc très bien dans notre nouveau monde de télésanté et pourrait certainement modifier les tâches liées au counseling en personne lorsque les femmes ont déjà passé en revue les renseignements de base sur les MCRAP. Cependant, différents centres pourraient devoir adopter différentes approches en fonction de leur population et des services qu'ils offrent. Dans l'ensemble, nous avons maintenant du rattrapage à faire. En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, l'adoption a aussi connu un recul au Canada. Il s'agit sans aucun doute d'un effort qui en vaut la peine et qui nous permettra de continuer à tenter de réduire le taux de grossesse non désirée au Canada et dans le monde entier. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Hall, pour votre revue de la présentation et de l'étude. Ce que je trouve intéressant de cette étude en particulier, c'est qu'il s'agit d'une des premières études qui montre vraiment la modification des tâches d'un fournisseur de soins de santé qui passe à la vidéo statique. Je pense que nous cherchons tous des moyens de gagner en efficacité, mais aussi de nous sentir plus à l'aise pour permettre à nos patientes d'en apprendre sur ces choses dans leur temps libre, en dehors de la clinique. Cela me rassure de savoir que nous pourrions trouver des solutions pour elles grâce aux bonnes ressources. Je crois que l'étude contraceptive Choice était une excellente étude, mais il est difficile d'évaluer si c'était en raison du counseling de 45 minutes, de la contraception gratuite ou de la volonté de changer, n'est-ce pas? C'était peut-être aussi parce que le counseling reposait sur l'efficacité que ça a fonctionné. Ces études individuelles nous montrent d'une certaine façon que chaque approche est utile. Il est aussi vraiment important de rappeler le contexte canadien. Nous n'avons pas de régime universel de contraception. Je vous remercie donc pour le travail que vous faites pour défendre cette cause. Je me demande si pour les personnes qui nous écoutent, vous pourriez peut-être, étant donné que vous travaillez dans divers établissements cliniques, nous aider à distinguer les différences de besoins en matière de contraception que vous voyez entre une patiente ayant récemment subi un avortement et une patiente habituelle qui cherche à obtenir des soins primaires et nous expliquer les raisons pour lesquelles nos préoccupations à leur égard sont différentes. Puis aussi aborder brièvement les risques et la manière dont ceux-ci pourraient varier.
Dans les cas d'avortement, les femmes passent par une gamme d'émotions. Parfois, elles sont très, très ouvertes à discuter des counseling en matière de contraception. Cependant, la quantité d'informations qu'elles sont capables d'absorber à ce moment-là est discutable. Des données tendent à montrer que si nous leur fournissons la meilleure méthode de contraception à ce moment-là, nous augmentons la probabilité qu'elles utilisent toujours une MCRAP 6 mois plus tard et diminuons leur risque de grossesse non désirée. Mais nous ne devons pas être coercitifs. Nous ne pouvons exercer de pression sur elles. Cependant, en soi, primaire, eh bien, je ne veux jamais être coercitive, mais j'ai certainement plus de temps, plus d'occasions et un plus grand nombre de visites pour arriver à cette fin. Je peux discuter des mythes plus longuement et essayer de véritablement explorer ces questions. Nous pouvons le faire dans une certaine mesure à la clinique d'avortement, mais c'est sans aucun doute avantageux de pouvoir prendre le temps d'offrir une séance de counseling en matière de contraception dans un cadre de soins primaires. Comme vous l'avez dit, si nous pouvions transmettre certains renseignements de base dans une vidéo et en discuter par la suite, cela aiderait certainement à réduire la durée approximative de 45 minutes de séance, telle que celle des études.
Ce sont de bons arguments. Je pense aussi que la probabilité très élevée d'une autre grossesse non planifiée dans un court laps de temps est importante. Comme vous le savez déjà, un plus grand nombre de professionnels de la santé peuvent proposer un ou deux avortements médicaux dans le cadre de leur pratique. Il s'agit de simplement penser à ces patientes un peu différemment. En ce qui me concerne, en tant que responsable de l'insertion du MCRAP, si on m'oriente une patiente ayant récemment subi un avortement, j'accorde une priorité à sa consultation. Les gens gèrent leur liste d'attente différemment. Et quelles sont les principales questions que vous aimeriez poser aux patientes lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps pour essayer de les aider à préciser leurs options de contraception? Et quelles sont les questions ou les manières de poser des questions qui ont vraiment bien fonctionné pour vous?
J'utilise la méthode Dr. Rupinder Tour et je leur demande à quel moment elles voudraient tomber enceinte, le cas échéant, et dans quelle mesure il est important pour elles de ne pas tomber enceinte. Jusqu'à ce moment-là, lorsque je leur demande à quel moment elles veulent tomber enceinte, elles répondent quelque chose comme « Oh mon Dieu, vraiment pas tout de suite ». Elles utilisent une méthode comme le retrait. Je veux tout simplement m'assurer de leur bien-être et de leur essence quant au degré d'efficacité de cette méthode. Je pense aussi devoir garder à l'esprit que leur choix d'une méthode moins efficace n'est pas un échec de ma part. Je veux les soutenir dans leur choix, quel qu'il soit, tout en m'assurant qu'elles disposent des renseignements nécessaires et qu'elles se sentent à l'aise de revenir me voir si les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient avec cette méthode de contraception. Revenons à la deuxième question sur l'importance de ne pas tomber enceinte. Certaines personnes qui vont se marier dans 4 mois ne doivent absolument pas tomber enceinte avant ce moment-là. Notre réflexe habituel était de penser qu'il s'agit d'une période brève et d'estimer qu'une méthode à courte durée d'action pourrait être le meilleur choix. Mais il est absolument essentiel de discuter aussi de certaines MCRAP.
Cela est effectivement très important. Et à mesure que le remboursement est de plus en plus répandu, vous savez, la prise en compte des coûts pour instaurer ou non une méthode devient moins importante. Je pense que ce sont tous vraiment de bons arguments. Dr. Hall, merci d'avoir pris le temps d'assister à la conférence pour nous et de nous avoir communiqué certains des renseignements présentés, de même que certains de vos conseils cliniques. Je suis vraiment reconnaissant et je suis sûr que les personnes qui nous écoutent le sont aussi. Merci beaucoup.
Merci.